Chapitre 15. Le commandant frappe à la porte. Il est tenu par le règlement de frapper. Le salon est censé être le territoire de Serena Joy. Il est supposé demander la permission d'y pénétrer. Elle aime le faire attendre. C'est un petit rien, mais dans ces maisons, les petits riens sont très significatifs. Ce soir, pourtant, elle n'obtient même pas cela, car sans lui laisser le temps de parler, il franchit le seuil du salon. Peut-être a-t-il juste oublié le protocole, mais peut-être est-ce délibéré. Qui sait ce qu'elle lui a dit à la table encombrée d'argenterie du dîner? Ou ne lui a pas dit? Le commandant est revêtu de son uniforme noir, dans lequel il ressemble à un gardien de musée. Un homme en pré-retraite jovial, mais circonspect, qui a du temps à tuer. Mais seulement à première vue. Ensuite, il fait penser à un directeur de banque du Middle West, avec sa chevelure argentée, lisse et soigneusement brossée, son allure sérieuse, ses épaules légèrement voûtées. Et ensuite, il y a sa moustache, elle aussi argentée, et après, son menton, qu'on ne peut vraiment pas manquer. Quand on descend jusqu'à son menton, il ressemble à une réclame de vodka, dans une revue de luxe des temps passés. Il a des manières douces, de grandes mains, avec des doigts épais et des pouces rapaces, des yeux bleus non communicatifs, faussement inoffensifs. Il nous examine comme s'il faisait un inventaire. Une femme agenouillée en rouge, une femme assise en bleu, deux en vert, debout, un seul homme, au visage mince, au fond. Il s'arrange pour paraître intrigué, comme s'il n'arrivait pas tout à fait à se rappeler comment nous sommes tous arrivés ici. Comme si nous étions quelque chose qu'il aurait reçu en héritage. Par exemple, un orgue de foire victorien, et qu'il n'avait pas encore trouvé à quoi nous pourrions bien servir. Ce que nous valons. Il fait un signe de tête, plus ou moins en direction de Serena Joy, qui n'émet pas un son. Il gagne le grand fauteuil de cuir qui lui est réservé, sort la clé de sa poche, tripote le coffret chamarré cerclé de cuivre et gainé de cuir qui trône sur la table, près du fauteuil. Il introduit la clé, ouvre le coffret, en extrait la Bible, un exemplaire ordinaire, à couverture noire et pages dorées sur tranche. La Bible est conservée sous clé, à la manière dont les gens gardaient autrefois le thé sous clé, pour que les domestiques n'en volent pas. C'est un engin incendiaire. Qui sait ce que nous en ferions, si jamais nous mettions la main dessus? Nous pouvons en subir la lecture à haute voix, la sienne, mais nous ne pouvons pas lire. Nos têtes se tournent vers lui. Nous sommes dans la tente. Voici notre histoire pour l'heure du coucher. Le commandant s'assied et croise les jambes sous notre regard. Les signets sont en place. Il ouvre le livre. Il s'éclaircit un peu la gorge, comme gêné. « Pourrais-je avoir un verre d'eau ? » demande-t-il à la cantonade. « S'il vous plaît, » ajoute-t-il. Derrière moi, l'une des deux, Cora ou Rita, quitte sa place dans la mise en scène et trotte vers la cuisine à pas feutrés. Le commandant est assis, les yeux baissés. Le commandant soupire, tire une paire de lunettes à monture en or de la poche intérieure de sa veste. Les chausses. Maintenant, il ressemble à un cordonnier dans un vieux livre de contes de fées. N'y a-t-il pas de fin à ces faux semblants de bienveillance? Nous l'observons, au centimètre près, au battement de cils près. Être un homme observé par des femmes. Cela doit être tout à fait insolite. Qu'elle soit là, à l'observer en permanence. À se demander qu'est-ce qu'il va faire à présent. À sursauter quand il bouge, même si c'est un mouvement parfaitement inoffensif, comme tendre la main vers un cendrier. Qu'elle soit là à le jauger, à se dire « il ne peut pas le faire, ça n'ira pas, il faudra bien que ça aille ». Comme s'il était un vêtement, démodé ou de mauvaise qualité, qu'il faut pourtant mettre parce qu'il n'y a rien d'autre de disponible. Qu'elle soit là à se le mettre, à l'essayer, à le prendre à l'essai, tandis que lui-même les met, comme une chaussette à un pied, enchausse le bout de sa personne, son pouce supplémentaire sensible, son tentacule, son délicat œil de limace pédonculé qui darde, se dilate, tressaille et se ratatine sur lui-même s'il est touché comme il ne faut pas. Regrossit, se renfle légèrement à l'extrémité, se propulse comme au long d'une feuille, en aile, avide d'une révélation. Obtenir la révélation par ce moyen, ce voyage dans une obscurité composée de femmes, d'une femme, qui voit dans l'obscurité, alors que lui-même avance péniblement à l'aveuglette. Elle l'observe de l'intérieur. Nous l'observons toutes. C'est quelque chose que nous pouvons vraiment faire, et ce n'est pas pour rien. S'il lui arrivait de défaillir, d'échouer ou de mourir, qu'adviendrait-il de nous? Rien d'étonnant qu'il soit comme une botte, dure à l'extérieur, donnant forme à une pulpe tendre de pied. C'est seulement un souhait. Voici quelque temps que je l'observe et il n'a donné aucune preuve de tendresse. « Mais attention, commandant, lui dis-je dans ma tête. J'ai l'œil sur vous. Un faux mouvement et je suis morte. Quand même, ça doit être l'enfer d'être minci. Ça doit être très bien. Ça doit être l'enfer. Ça doit être très silencieux. On apporte l'eau. Le commandant la boit. « Merci, dit-il. » Cora se glisse à sa place. Le commandant marque une pause, les yeux baissés, à examiner la page. Il prend son temps, comme inconscient de notre présence. Il est comme un homme qui chipote son steak derrière une vitre de restaurant et qui fait semblant de ne pas voir les yeux qu'il observe dans la nuit affamée, à moins d'un mètre de son coude. Nous nous penchons un peu vers lui, limaille de fer attirée vers son aimant. Il a quelque chose que nous n'avons pas. Il a le verbe. Comme nous l'avons gaspillé jadis. Le commandant, comme à contre-cœur, commence à lire. Il ne le fait pas très bien. Peut-être que ça l'ennuie, tout simplement. C'est l'histoire habituelle, les histoires de toujours. Dieu à Adam, Dieu à Noé, croissez et multipliez, emplissez la terre. Puis vient la vieille rengaine chancy de Rachel et Léa, qu'on nous serinait au centre. Donne-moi des fils, ou je meurs. Est-ce? Suis-je moi à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit, ma servante Bila? Va vers elle, et qu'elle enfante sur mes genoux. D'elle, j'aurai moi aussi un fils, etc. On nous en faisait la lecture à tous les petits déjeuners, quand nous étions assises dans la cafétéria du lycée, à manger du porridge avec de la crème et du sucre roux. « On vous donne ce qu'il y a de meilleur, vous savez, » disait Tante Lydia. « Il y a la guerre, le rationnement. Vous êtes des filles gâtées, » disait-elle en papillotant, comme on réprimande un chaton. Vilain minou. Au déjeuner, c'était les béatitudes. Heureux les ceci, heureux les cela. C'était joué sur des disques, la voix était celle d'un homme. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux. Bénis soient les humbles. Heureux les silencieux. Je savais qu'ils l'avaient inventé. Je savais que c'était faux et qu'ils en avaient sauté des passages. Mais il n'y avait pas moyen de vérifier. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Personne n'a dit quand. Je surveille la pendule au dessert. Poires en boîte avec de la cannelle. L'ordinaire du déjeuner. Et cherche Moira à sa place, deux tables plus loin. Elle est déjà partie. Je lève la main, obtiens la permission de sortir. Nous ne faisons pas cela trop souvent, et toujours à des heures différentes de la journée. Dans les toilettes, je me rends dans l'avant-dernière cabine, comme d'habitude. Je chuchote. « Tu es là ?»« Grandeur nature et tout aussi laide, » répond Moira tout bas. Je lui demande. « Qu'est-ce que tu as entendu ?»« Pas grand-chose. Il faut que je sorte d'ici, je deviens dingue. » La panique m'envahit. Non, non, Moira. N'essaie pas. Pas toute seule. Je me porterai malade. Ils enverront une ambulance, je l'ai vu. Tu n'iras pas plus loin que l'hôpital. Au moins, ce sera un changement. Je n'aurai plus à écouter cette vieille salope. Ils te démasqueront. T'en fais pas, je connais un truc. Quand j'étais gamine au lycée, j'ai supprimé la vitamine C. Et j'ai attrapé le scorbut. Au début, on ne peut pas faire le diagnostic. Et puis tu la reprends. Et tu vas très bien. Je vais cacher mes pilules de vitamine. Moira ne fait pas ça. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle ne soit pas là avec moi. Pour moi. Ils envoient deux types avec toi dans l'ambulance. Imagine. Ils doivent en crever d'envie, merde. On ne leur permet même pas de mettre les mains dans les poches. Ça se peut que... Hé, hey, là-dedans ! Il est temps de sortir ! Dit la voix de tante Elisabeth. Depuis la porte. Je me lève, tire la chasse d'eau. Deux des doigts de Moira apparaissent par le trou de la cloison. Il était juste assez grand pour deux doigts. Je les touche avec les miens, vite, appuie, relâche. Et Léa dit « Dieu m'a donné mes gages parce que j'ai donné ma servante à mon époux », dit le commandant. Il laisse le livre se refermer. Celui-ci fait un bruit d'épuisement, comme une porte capitonnée qui se ferme toute seule au loin, une bouffée d'air. Ce bruit évoque la douceur des minces pages de papier pelure, le toucher qu'elles avaient sous les doigts. Douce et riche comme le papier poudre rose et dufteux du temps d'avant, que l'on achetait par carnet pour empêcher le nez de briller, dans les magasins qui vendaient des bougies et du savon en forme d'objets, coquillages, champignons. Comme du papier à cigarette, comme des pétales. Le commandant reste assis les yeux fermés pendant un moment, comme s'il était fatigué. Il fait de longues journées. Il a beaucoup de responsabilités. Serena s'est mise à pleurer. Je l'entends derrière mon dos. Ce n'est pas la première fois. Elle fait toujours cela le soir de la cérémonie. Elle essaie de ne pas faire de bruit. Elle essaie de conserver sa dignité devant nous. Les tapisseries et les tapis étouffent ces bruits, mais nous l'entendons clairement malgré tout. La tension entre son manque de maîtrise d'elle-même et ses efforts pour le refouler est horrible. C'est comme un paix à l'église. J'éprouve comme toujours une grande envie de rire, mais pas parce que je trouve ça drôle. L'odeur de ses pleurs se répand sur nous et nous faisons semblant de l'ignorer. Le commandant ouvre les yeux, constate, fronce les sourcils, cesse de constater. Maintenant, nous allons prier quelques instants en silence, dit le commandant. Nous demanderons une bénédiction et le succès dans toutes nos entreprises. J'incline la tête et ferme les yeux. J'écoute les respirations retenues. Les halètements presque inaudibles. Le frémissement qui bruisse derrière mon dos. Je pense, comme elle doit me haïr. Je prie tout bas. Nolite te salopardes exterminorum. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais cela sonne bien. Et il faudra que cela fasse l'affaire. Parce que je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre à Dieu. Pas en ce moment. Pas, comme on disait, dans les circonstances actuelles. L'inscription, griffée sur la paroi de mon armoire, flotte devant moi, laissée par une femme inconnue qui a le visage de Moira. Je l'ai vue sortir pour prendre l'ambulance, sur un brancard porté par deux anges. Qu'est-ce qu'elle a ? Je forme les mots avec les lèvres. À l'adresse de la femme qui est à côté de moi. Sans danger, une pareille question, sauf si on la pose à une fanatique. De la fièvre, articule-t-elle sans bruit. Appendicite, paraît-il. J'étais en train de dîner, ce soir-là. Boulettes de viande et gratin de pommes de terre. Ma table était près de la fenêtre. Je pouvais voir dehors. Jusqu'à la grille de l'entrée. J'ai vu revenir l'ambulance. Pas de sirène cette fois-ci. L'un des anges a sauté à terre, parlé au gardien, Le gardien est entré dans la maison. L'ambulance est restée garée. L'ange se tenait le dos à nous, comme on leur a appris à le faire. Deux des tantes sont sorties de la maison avec le gardien. Elles sont allées à l'arrière. Elles ont tiré Moira dehors, l'ont traînée à travers la grille et jusqu'en haut du perron, en la tenant sous les aisselles, une de chaque côté. Elle avait du mal à marcher. J'ai cessé de manger, je ne pouvais plus avaler. Pendant ce temps, toutes celles qui se trouvaient de mon côté de la table écarquillaient les yeux à la fenêtre. La fenêtre était verdâtre, avec ce grillage de poulailler qu'on mettait à l'intérieur des vitres. Tante Lydia a dit « Mangez votre dîner !» Elle s'est approchée et a tiré le store. Ils l'ont emmenée dans la pièce qui avait été le labo de science. C'était une pièce dans laquelle aucune de nous n'allait jamais de son plein gré. Ensuite, elle n'a pas pu marcher pendant une semaine. Ses pieds n'entraient pas dans ses chaussures. Ils étaient trop enflés. C'est aux pieds qu'ils s'en prenaient, pour un premier délit. Ils se servaient de câbles d'acier, effilés aux extrémités. Après, les mains. Ils ne se souciaient pas de ce qu'ils nous faisaient aux mains ou aux pieds, même si c'était permanent. « Souvenez-vous !» disait Tante Lydia. « Pour les fins qui sont les nôtres, vos mains et vos pieds ne sont pas essentiels. » Moira gisait sur son lit, en exemple. Elle n'aurait pas dû essayer, pas avec les anges, dit Alma depuis le lit voisin. Nous avons dû la porter en classe. Nous volions pour elle des sachets de sucre à la cafétéria, pendant les repas, et les lui faisions parvenir en fraude, la nuit, en nous les repassant d'un lit à l'autre. Elle n'avait probablement pas besoin de sucre, mais c'était la seule chose que nous pouvions trouver à voler, à donner. Je continue à prier, mais ce que je vois, ce sont les pieds de Moira, l'aspect qu'ils avaient quand ils l'ont ramenée. Ses pieds ne ressemblaient plus du tout à des pieds. On aurait dit des pieds noyés, gonflés et désossés, à part la couleur. On aurait dit des poumons. Je prie. Ô Seigneur, nolite te salopardes exterminorum. Est-ce cela que vous vouliez? Le commandant s'éclaircit la gorge. C'est le signal pour nous laisser entendre qu'à son avis, il est temps que nous cessions de prier. Car le regard du Seigneur parcourt sans relâche la terre entière pour se savoir fort au nom de ceux dont le cœur est sans défaut envers lui, dit-il. C'est l'indicatif de la fin. Il se lève. Nous sommes congédiés.